Bonjour à toutes et à tous. L'atelier des médias a initié il y a un peu plus d'un an une série sur les amours connectés. L'idée était de raconter notre monde d'aujourd'hui à travers ce qui est peut-être un de ces phénomènes les plus fascinants, intrigants et signifiants. L'utilisation des nouvelles technologies pour démarrer et ou vivre des relations amoureuses. Les deux premières émissions signées Manon Mella, Mélissa Barra et Julien Lebotte sont disponibles sur notre site. À l'occasion d'un séjour au Sénégal, Constance Léon a choisi de poursuivre cette série à travers un entretien que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Des amours connectés 3, Issatou, c'est une émission signée Constance Léon, Simon Decreuse et Ziad Malouf.
L'atelier des médias.
Alors, dans un premier temps, pour faire un petit test, je voudrais que tu me dises juste ce que tu as mangé ce matin au petit déjeuner.
Alors, je prends pas de petit déjeuner normalement, donc je n'ai rien à manger.
Comment tu fais pour tenir toute la journée après?
Une tasse de café, serrée, sans sucre. Yeah. Et un gros verre d'eau aussi, à peu près un demi-litre. Donc je tiens jusqu'à 13h avec ça, et à 13h je me goinfre. Voilà. Alors, je suis Issatou, j'ai 22 ans et je vis au Sénégal, je suis étudiante.
Et tu viens d'où?
Je viens de la Côte d'Ivoire.
De quelle ville?
Yamoussoukro.
Et ça fait combien de temps que tu es installée à Dakar?
Un peu moins d'un an maintenant, je suis là depuis un peu moins d'un an.
Et qu'est-ce que tu fais à Dakar?
Alors, je fais des études en commerce international.
On est ici pour discuter d'une histoire d'amour. Est-ce que tu peux me parler de la première fois où tu as vu cet homme?
Alors, la première fois où je le rencontre, ça date de 2015. On travaillait sur un projet commun à distance. Et donc, il est venu au pays pour assister à l'événement. Et nous nous sommes rencontrés fortuitement dans un couloir, en fait. On voyait nos noms passer dans les listes d'emails, mais on ne savait pas qui était qui. Du coup, c'est l'organisateur qui nous fait « Ah tiens, Issatou, voilà Wally, Wally, voilà Issatou. » Et c'est « Bonjour, bonjour, on se traverse. » Sur le coup, rien du tout. Et maintenant, je regrette un peu de ne pas avoir marqué un peu mieux ce moment dans mon esprit. Parce qu'on s'est reparlé 3 jours après lorsqu'il m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Voilà.
Qu'est-ce que tu as pensé quand il t'a demandé sur Facebook en ami?
Alors, je me suis dit, on vient de travailler sur un projet commun. Donc, sûrement, il a envoyé une demande à tout le monde. Et donc, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. J'ai vite fait d'accepter la demande. Mais ce qui a été le plus surprenant après, c'est que pendant genre 30 minutes, il n'a pas arrêté de liker tous mes posts sur ma page. Et là, je me suis dit, ça doit être un appel de balle. Et je suis rentrée dans ses messages privés. Genre, coucou, ça va?
Sur le moment, qu'est-ce qui s'était passé quand vous étiez rencontrés en vrai?
Pas grand-chose. C'est comme j'ai dit, on s'est salué vite fait dans les escaliers. Je suis partie où j'allais. Et je suppose qu'il est resté par là avec l'organisateur. Et on ne s'est plus revu jusqu'à ce qu'il me demande un ami sur Facebook. Et qu'on passe tout le week-end à bavarder. Et que le lundi d'après, il m'invite à manger. Yeah.
De quoi vous parliez ce premier week-end sur Facebook?
Un peu de tout et de rien. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi avoir travaillé sur ce projet? Tu étais où? Nanani nanana. Et pendant tout le week-end, en fait, ça n'arrêtait pas. On est passé des messages Facebook à des SMS et à des appels téléphoniques pendant la nuit. Donc, je ne saurais dire aujourd'hui de quoi est-ce qu'on parlait concrètement, mais vraiment, c'était un peu de tout. Et puis, on a tellement accroché qu'on se retrouvait à parler 24/7 et quand la connexion se coupait, on s'appelait en appel direct.
T'étais étonnée de cette relation aussi rapide?
Yeah, c'était quand même assez surprenant parce que ça allait super vite. Bon, on ne rentrait pas dans de grands détails et tout, mais vraiment, on apprenait à se connaître. Connaître les aspirations l'un de l'autre, les projets sur lesquels il a travaillé ou elle a travaillé antérieurement. C'est vraiment qu'on trouvait un truc à se dire, en fait. On n'avait juste pas envie de se lâcher.
Et qu'est-ce que tu pensais à l'époque de ces premiers échanges, un peu de cette première phase de drague, qu'elle soit virtuelle, en fait?
Alors, ça ne m'avait pas nécessairement posé un problème, on va dire, des formations professionnelles, vu que je travaille dans tout ce qui est IT et tout. Donc, travaillant un peu dans le domaine de tout ce qui est technique de communication et d'information, disons que le digital a quelque peu pris le pas dans mes modes de vie, dans mon mode de vie, et donc dans mes moyens de communication primordiaux. Donc, ça ne me dérangeait foncièrement pas que ce soit numérique et pas physique, quoi.
Est-ce que vous en avez parlé tous les deux dès le premier week-end où vous avez commencé à échanger sur les messages privés de Facebook, où vous vous disiez on est en train de se draguer sur Facebook en fait?
Pas nécessairement, parce que vu que c'était le cas aussi de son côté, lui il est ingénieur telecom, donc les IT aussi, ça fait partie de comment il communique. Ça n'avait rien d'étrange en fait pour nous, c'était à la limite c'était normal. C'est comme si la conversation dans le couloir des jours précédents avait juste continué en fait.
Et donc vous avez eu votre premier rendez-vous le lundi suivant?
Exactement.
Physiquement quoi?
Exactement. C'était quand même assez accéléré parce que le lundi déjà on allait manger ensemble, on a traîné ensemble toute la journée. Le mardi, il est venu travailler au bureau avec moi. Le mercredi, il m'a accompagné chez mon gynécologue. Pas de bol, on tombe sur une ancienne camarade de classe à lui qui lui fait « Ah tiens, t'es venue avec ta femme, elle est enceinte !» On était genre non, je veux dire, on se connaît depuis une semaine. Et lui, il était tout confus, il savait pas quoi dire, mais on a trouvé ça drôle, mais j'étais en mode « Non, je suis pas sa femme, non, je pense ça !» Et puis le jeudi, il m'invite à manger chez son grand frère chez qui il était. Et il me présente à la femme de son grand frère. Et elle me fait une blague, genre « Ah ouais, t'es la nouvelle amoureuse de Wally et tout, il nous a parlé de toi. » And I was like « Ok. » Et donc, ce jeudi-là, il me demande d'être sa copine. Et j'étais un peu éberluée parce que ça faisait une semaine, vraiment 7 jours qu'on se connaissait. Du coup, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais j'étais into him. Et je me suis dit « Ouais, c'est un peu fou, mais why not, quoi ?»
Et vous vous êtes embrassée?
Non. Jusque-là, c'était encore un peu compliqué. Je me rappelle qu'il avait essayé 2-3 fois avant le vrai premier baiser. Le vendredi d'après, nous nous sommes vus. Et le samedi, donc, il y avait un autre événement pour lequel il était là. Après l'événement, il y a eu tout ce qu'il y avait à gérer, le post-événement. Et le soir, j'en invitais à manger à la maison. J'ai fait à manger. Il a beaucoup apprécié et tout. Et là, en le raccompagnant, nous sommes embrassés devant le portail de chez mes parents. Et je me rappelle que ce baiser a rythmé de bout en bout la première année de notre relation en fait. Et puis on s'est fait tout le tralala des amoureux, on s'est échangé des bracelets que l'on a toujours jusqu'à aujourd'hui. Puis on s'est fait des promesses et puis un dernier câlin. Et il est parti pour 2 ans. On ne s'est pas revus pendant 2 ans. Et c'est là où notre histoire connectée commence.
On va pas. Non, si tu pars ça va pas. Tu t'en vas, non chérie ça va pas. Non, si tu pars ça va pas.
C'est là où on commence à vivre une relation amoureuse essentiellement via internet. Un peu d'appels téléphoniques souvent quand même parce que la connexion internet dérangeait souvent. Mais ça a été principalement une relation rythmée par Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je crois que tous les réseaux sociaux, ils sont passés quand même. Enfin, on a développé une habitude et c'est genre WhatsApp, c'est le salon, Instagram, c'est la chambre, Snapchat, c'est la salle de bain. Des petits codes comme ça. Et quand on se parle même, des gens peuvent être surpris parce que je lui fais « Retrouve-moi dans la chambre » ou il me dit « Retrouve-moi dans la cuisine » et tout. Et tout le monde est like « Vous parlez de quoi? Vous vivez à 6000 km l'un de l'autre. » yeah, so that was it. Sur WhatsApp, en fait, on parlait de tout ce qui est plus ou moins sérieux. Mais ça, c'était avec l'avancée de la relation. Genre, on a commencé à plus à savoir sur nos familles, par exemple, sur nos projets. Sur WhatsApp, c'est vraiment des conversations sérieuses. Genre, tu es malade, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Quel médicament tu prends? Ou bien, oui, il y a maman qui est malade. Ou bien, oui, maman qui rentre dans le deuil. Des conversations vraiment, vraiment sérieuses. Sur Snapchat, par exemple, vu que c'est assez éphémère, c'était plutôt des conversations coquettes et des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est la salle de bain. Sur Instagram, c'était plus comme des pillow talks, vraiment romantiques. On se lance des petits pics, des trucs comme ça, nani, nanana. Je crois que... Qu'est-ce qui était la cuisine, déjà? Bah, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y en avait un qui était à la cuisine. Je crois que c'est Twitter, parce qu'on n'y va pas très souvent. Mais sinon, Skype, on a utilisé pendant longtemps les Skype calls avant que... Parce qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas encore les vidéo calls sur WhatsApp. Donc, tous nos vidéo calls, c'était sur Skype et puis Skype ou Facebook Messenger. Donc, sur Facebook Messenger, j'allais à l'école. Il était sur call, il écoutait mes cours. Il allait à l'école, j'étais sur call, j'écoutais ses cours. C'était... On s'endormait sur Skype call, on se réveillait. Le premier réflexe le matin, c'était d'appeler l'autre pour l'avoir en visu. Il nous arrivait même de prendre des douches communes via Skype call. C'était vraiment, vraiment très intense. Vraiment.
Vous avez déjà eu une relation sexuelle par réseau social interposé ?
Yes. Lol. C'est étonnant à dire, mais oui. C'était, en fait, notre relation, elle était... normal. Je veux dire, passer le cap des 3 mois, toute la passion s'est un peu tamisée. On a commencé à vraiment découvrir qui était l'autre en suivant ses journées, en découvrant ses choix, comment la personne pense. Passer le cap des 6 mois, on a commencé à cimenter les choses, à parler de choses plus sérieuses et tout. Au cours de la première année, on a eu nos premiers rapports sexuels par appareil interposé. Donc c'était vraiment comme une relation normale en fait. On ne sentait à aucun moment que bah il y avait cette distance. C'est vrai que le ressenti physique de la chose n'est jamais le même, mais vu que on n'avait jamais eu l'occasion d'être aussi proche physiquement, on se contentait très bien de ce que nous offrait la technologie.
Et toi, ça te plaisait cette forme de relation notamment sexuelle avec les réseaux sociaux ?
Pas nécessairement. Disons que c'était pas mon kiff, si on peut dire ça comme ça. Mais après, vu que j'y étais plus ou moins contrainte, donc j'avais pas le choix. C'est au début, on ne se rend pas vraiment compte. Parce qu'on se rassure de se parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se rassure de se tenir informé de tout. On se rassure de... Même quand j'allais en cours, on était sur appel, il suivait mes cours. Quand il allait en cours, on était sur appel, je suivais ses cours. Sur son campus, comme sur le mien, tout le monde savait qu'il avait une copine virtuelle. Parce qu'on le voyait tout le temps se balader avec son téléphone ou un truc comme ça, genre, mec, qu'est-ce qui va pas ? Et c'est surtout, je vais dire, il y avait une sorte d'insouciance qu'on avait associée à la relation. Et je ne sais pas comment exprimer ça, mais... on ne se sentait pas nécessairement gêné par le fait que ce soit purement virtuel. À la limite, on se disait que c'était bien parce qu'on voulait garder une certaine, pureté à notre union. On se disait qu'à la limite, le fait qu'on soit loin, on n'est pas tenté, tout ça, nanana, ouais, ça va, ça se passe plutôt bien. Donc, au début, c'était plutôt facile. La vérité, c'est que le challenge a commencé à se faire ressentir au moment où la routine s'est installée. Notamment après les 6 premiers mois, où tu sais déjà ce qu'il fait le matin. C'était vraiment, vu qu'on vivait de bout en bout la relation ensemble via le virtuel, tu commences à avoir le même ressenti que si tu vis sous le même toit que quelqu'un. Tu sais déjà qu'il se lève à telle heure, et quand il va se lever, il va t'appeler, ou quand toi tu vas te lever, tu vas l'appeler. Donc forcément, vous vous réveillez sur Skype, vous allez prendre votre douche ensemble sur Skype, vous allez prendre votre petit déjeuner, pour celui qui prend un petit déjeuner, parce que je n'en prenais jamais, mais lui toujours, sur Skype. Après, c'est des messages sur Facebook pendant toute la journée, c'est des appels pendant les cours. Vous sortez tous les deux des cours entre 17 et 18 heures. C'est des appels vidéo pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous faites le ménage et vous endormez. Vous regardez vos émissions de télévision ensemble. Il y a une certaine routine qui commence à s'installer. Et là, à ce moment, comme dans toute relation physique normale, on cherche à impulser un nouveau vent, un vent de renouveau, si on peut dire ça comme ça. Et ça devient un peu plus compliqué, en fait, parce que tu te rends compte que sur le numérique, techniquement, vous avez à peu près fait le tour de tous les réseaux sociaux. Donc, tu te dis... tu te lasses un peu, on va dire ça comme ça. Après, le fait que aussi peut-être les objectifs changent. Moi, j'étais en fin de cycle de bachelor. Donc, je commence à me mettre en perspective. Est-ce que je veux m'arrêter là avec les études? Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux me poser? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et tu as une plus ou moins pression sociale autour de toi parce que tu te dis... voilà, c'est bien ce que je vis avec lui, mais j'ai XYZ qui est là, qui me propose une vraie relation. Est-ce que ce serait pas mieux? Parce que nous, on est là, voilà, ça fait un an, on se fait un peu chier, là, on se tourne, mais on sait pas quand on va se revoir, on sait pas dans quel contexte. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'accrocher? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que, voilà, tu as plein de questions comme ça qui te taraudent l'esprit. Tu as même ta famille qui te dit, ah ouais, ton gars là, machin et tout, hein, tout cela. Donc, ça commence à être assez lourd après les 6 premiers mois. Et vraiment, au bout d'une année, moi, je craque. Moi, je craque et je romps avec lui. Je me rappelle qu'à l'époque, il n'était pas du tout d'accord. Mais je ne lui ai pas dit, c'est fini entre nous. Je lui ai dit que j'ai besoin de prendre mes distances. J'ai besoin d'un temps de réflexion, j'ai besoin de réfléchir à cette relation, j'ai besoin de repenser les choses parce que je sens que je ne suis plus totalement dans la relation. Genre, je suis là parce qu'on a forgé quelque chose ensemble, parce que je suis fortement attachée à toi. Mais est-ce que ce mode de vie, est-ce que cette relation, c'est ce que je veux profondément? Je ne savais plus. Pendant cette relation, on s'est séparés 3 ou 4 fois hein, déjà. Parce qu'à des moments, ça essouffle juste en fait. Que ce soit la relation en elle-même ou tout ce qu'il y a autour. Le fait de ne vraiment pas... Parce que la communication n'est jamais optimale en fait via la technologie. Si tu es sur un voice call par exemple, il y a des émotions que tu ne peux pas ressentir. Même si tu as la personne sur vidéo call, il y a beaucoup d'émotions que la personne peut cacher. Du coup, la conversation n'est jamais... Tout n'est jamais vraiment dit et à un moment il y a des accumulations et puis il y a un ou l'autre qui craque et qui se dit voilà. J'ai été la première à craquer, je l'avoue, juste avant qu'on ne fête nos 1 an en fait, parce qu'on s'est mis ensemble en août et je crois juillet de l'année qui suivait. Bah moi je lui ai dit que j'en pouvais juste plus, je n'arrivais plus à supporter la relation en fait, c'était trop de... Comment est-ce que je vais dire ça? C'était surtout un manque permanent parce que j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de le sentir et c'était pas possible. Du coup, à un moment, j'ai lâché. Mais étonnamment, à chaque fois qu'on a été séparés ou quelque chose comme ça, on n'a jamais fait plus de 12 jours consécutifs dans nos vies sans se parler. La plus longue période de temps, on ne s'est pas parlé, c'était 12 jours. Et même quand on était séparés, il continuait de prendre des nouvelles ou des trucs comme ça. Du coup, à un moment, c'était d'accord. Et puis, on s'est remis ensemble. Et puis, après, lui aussi, il a craqué. Et puis, j'ai recraqué. Et puis, il a recraqué. Et bref, entre ces 2 années, on ne s'est pas vus physiquement. On doit s'être séparés 4 fois, je pense. 4 fois, quand même.
Est-ce que tu peux me parler, justement, d'un moment précis ou peut-être le premier moment où tu disais que c'était trop dur, cette relation-là? Est-ce que tu te rappelles exactement qu'est-ce qui t'a fait te dire « Non, j'arrive plus à avoir cette relation numérique à distance ?»
Alors, c'est déjà un ressenti personnel, mais je veux dire que c'est appuyé par une grosse pression sociale. Parce que, voilà, quand t'as 20, 21 ans, tu as quasiment toutes tes amies autour de toi qui ont leurs copains qui est là physiquement, qui vont en week-end, qui font des sorties, ou on t'invite, ou leurs copains qui t'écrivent genre « Ah ouais, je vais faire une fête surprise à ta copine », et tu te dis « Purée, moi je veux que mon copain il soit là pour ça et tout ». Et c'est pas évident, mais c'est surtout qu'en toi-même, il y a un manque physique que tu ressens. Il y a des jours où t'as juste pas envie de parler, t'as juste envie que la personne soit à côté, et puis c'est tout quoi. Donc ça commençait à peser lourd parce que lui, à certains moments, il comprenait pas. J'avais juste pas envie de lui parler, j'avais juste envie qu'il soit là. Et j'en étais arrivée à un peu lui en vouloir au fond de moi, de pas être là. Mais je savais qu'il pouvait pas, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Donc c'était vraiment très lourd à porter pour moi. Après aussi, quand tu es dans un environnement où t'es une jeune fille, nani nanana, t'es à la fleur de l'âge, donc t'as pas mal de prétendants et tout ça qui te font des offres et tu te dis à un moment, est-ce que ça vaut la peine de rester là? Et donc, la première fois que nous sommes séparés, vraiment, c'était un moment d'introspection avec moi-même. C'était surtout ça, en fait. C'était la fatigue de l'attendre et voir tout ce qu'il y a autour. Et j'avais besoin de prendre un moment à moi-même pour me dire, est-ce que cette relation va quelque part? Est-ce qu'elle vaut la peine? Et si oui, pourquoi? J'avais besoin de me poser ces questions-là. Voilà.
Et tu y avais répondu ensuite quand vous vous êtes remis ensemble?
Pas totalement. La vérité, c'est que je m'étais dit, on va parler franchement et on va essayer de savoir ce qu'on veut l'un l'autre. Quand on se mettait ensemble, c'était surtout parce que voilà, on s'aimait bien, nanani nanana. Mais à un moment, on a besoin d'avoir des perspectives communes et de savoir où l'autre veut aller pour savoir si ça va marcher ou pas, ou si on va continuer dans cette lancée ou pas. Donc la raison pour laquelle je me suis remis avec lui, c'est qu'on a eu cette conversation sérieuse et sans mettre automatiquement des tags sur les choses et tout. C'était vraiment juste de dire où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on veut aller, quels sont nos plans de vie, quelles sont nos perspectives communes et tout. Et on a vu qu'on pouvait faire chemin ensemble. Donc au fond de moi, je me suis dit, on a commencé quelque chose, essayons d'y arriver en fait.
Est-ce que, justement, au moment de cette première rupture, vous vous êtes vraiment posé la question pourquoi on a une relation numérique? Qu'est-ce que ça change pour nous deux, le fait que ce soit numérique?
Pas nécessairement cette question-là, parce que on a surtout pensé à des cas des parents, par exemple, qu'on a vus, où la maman est restée au pays, et puis le papa allait faire ses études, et puis il est revenu après 5 ans. Et à leur époque, il n'y avait pas la technologie, mais ils ont quand même pu tenir tous les deux et fonder quelque chose. Je veux dire, dans ce cas, on a le choix entre voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc on essayait de le voir à moitié plein tout le temps. Donc même quand ça n'allait pas très fort, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on essaye de le faire, on trouve des raisons de se motiver. Soit on se raccroche à des souvenirs qu'on a bâtis ensemble, soit on se raccroche à des exemples qu'on a autour de nous. Donc c'est surtout demander aux gens autour de nous qui ont eu ce genre de relation, comment est-ce que ça a marché. Et même là où ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça échoue pour qu'on évite? Et puis, on avait notre petit secret, c'était l'application Couplette, qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. C'est une application pour les couples à distance. Bon, je crois que les couples qui sont dans le même pays aussi peuvent le faire, mais ça marche très bien en tout cas pour les couples à distance. Parce que Couplette, en fait, vous rentrez vos deux profils et le profil, l'application ne marche chez toi que si l'autre a activé son profil aussi. Déjà, après vous rentrez votre date où vous êtes mis ensemble et ça compte vos jours. Donc là, on est presque à 1000 jours, on est à 920 ou 930 jours. Donc on attend nos 1000 jours avec impatience. Après, ça vous met une wish list, par exemple. Tu peux choisir un vœu d'aller sur une plage avec lui. Ou je me rappelle un vœu qu'il avait formulé à l'époque, c'était de s'allonger sur mes cuisses. Et on a pu le réaliser l'année dernière, quand il était là. Voilà, ce genre de choses, en fait.
Et qu'est-ce que tu mets dans ton profil?
Des informations de base. Normalement, il sait tout sur toi. Donc, tu mets ton nom, du moins ton pseudo. Tu mets ta date de naissance pour que ça vous rappelle vos anniversaires. Tu peux mettre ton numéro de téléphone si tu veux. Tu peux mettre ton compte Facebook et ton mot de passe. C'est tout. Le reste, vraiment, c'est que vous avez un thread où vous pouvez avoir une conversation, en fait. Et vous avez une story. Est-ce que je vais dire une story? Mais un mur, en fait, où vous mettez plusieurs stories. Genre, je crée une story, lui vient rajouter une image.
Les stories, c'est comme sur Instagram ou sur Facebook, c'est une succession d'images que tu peux...
C'est surtout un fil d'actualité, en fait, parce que les stories, dans Couplette, elles ne s'effacent pas, à moins que vous les supprimiez. Mais c'est vraiment comme un fil d'actualité Facebook. Genre, à chaque fois, vous venez faire une publication, voilà, et tout. Mais sauf que vous pouvez l'éditer à deux. Donc, il met du texte, je mets de l'image, ou je mets de l'image, il met du texte, ou je viens commenter sur sa publication, il commente sur la mienne. Voilà. Et il y a un coin où vous pouvez vous envoyer des lettres. On adorait se faire ça. Je crois qu'en cette année, j'ai relu des lettres qu'on s'était envoyées en 2015, 2016. C'était trop mignon. C'était des lettres. Quand tu envoies une lettre, par exemple, tu choisis l'humeur de la lettre. Et comme ça, avant d'ouvrir la lettre, moi, je sais si c'est triste ou si c'est joyeux ou si c'est... Je sais pas. Et il y a la possibilité même de l'envoyer aujourd'hui et de choisir qu'elle ne l'ouvre qu'à X date, par exemple.
Donc... Tu peux me donner l'exemple d'une lettre qui te revient à l'esprit ou m'en lire une, si tu as...
Je vais regarder vite fait. Je vais lire une vieille lettre, une très vieille lettre. Bon, à l'époque, quand il m'aimait encore beaucoup, il écrivait beaucoup. Maintenant, là, il écrit deux phrases. Et il dit que c'est la maturité. Bon, on a pris ça comme ça. Mais là, je cherche une lettre sympa et courte qu'il a écrite. Toutes ces lettres sont longues. Alors, ah ouais, ça, c'est une vieille lettre quand même. Le 31 décembre 2015. C'est plus ou moins long, hein? Donc, il dit, j'ai envie de te tenir, de te parler, de t'entourer de mes bras, de te couvrir et de te brûler de mes caresses. Te voir pâlir et rougir sous mes baisers, te sentir frissonner dans mes embrasements. C'est la vie pleine, entière, vraie. C'est le rayon de soleil, c'est le rayon de paradis. Ô mon ange, que tu es belle. Viens que ma bouche pose et cueille sur la tienne ce mot qui est plus doux des baisers. Je t'aime. Des mots de Victor Hugo. À lire ces paroles de mon cher collègue Victor R.I.P., bon là il se foutait de ma gueule, je me demande s'il était dans ma tête, tant ses désirs exprimés correspondent parfaitement aux miens envers toi, ma belle. Je ne vais pas être prolixe et me lancer dans des souhaits interminables. Je dirais tout simplement que pour cette nouvelle année, je demande au bon Dieu de solidifier notre relation pour qu'elle dure à jamais et qu'il me donne l'ingéniosité pour t'entraîner dans une boucle infinie de séduction, de bonheur et d'amour. Bonne année, ma chérie. Ton bébé.
Yeah.
Donc ça, c'est du 31 décembre 2015.
Donc c'est avant que toi tu lui demandes un peu d'air pour prendre tes distances.
Je lui ai demandé un break en juillet 2016, si j'ai bien.
Donc une pause.
Voilà, une pause en juillet 2016. Yeah, donc c'était bien avant.
Et est-ce que à ce moment-là tu as l'impression que la relation que vous entretenez tous les deux est un peu fausse?
Pas fausse du tout, parce qu'il a toujours été très sincère avec moi, en tout cas. Je pense que c'est l'une des qualités qu'on a essayé de forger ensemble. Même si les choses sont dures à dire ou elles font mal, on s'arrange à les dire quand même. C'est surtout que la relation me pesait. C'est surtout qu'à 19 ans, j'avais des envies d'une fille de 19 ans. Je voulais pouvoir sortir manger avec mon copain. Je voulais pouvoir le sentir, qu'il me prenne dans ses bras quand ça va pas. Je voudrais pouvoir le voir, tout simplement. Je voudrais pouvoir vivre un couple life, une vie de couple normale. Et c'était très complexe via le digital et via le numérique. Et surtout, le manque de perspective, c'était surtout de se dire, on ne sait pas dans combien de temps exactement on va se revoir. On ne sait pas dans quelles circonstances on va se revoir, et toutes ces choses me pesaient. Mais la preuve en est qu'on n'a jamais été, on n'a jamais coupé la communication pour plus de 12 jours. Mais du coup, on s'aimait vraiment. Du moins, je l'aimais, ou je l'aime vraiment. Mais c'est surtout la conjecture physique, ou du moins très virtuelle, que prenait la chose qui me pesait en fait.
Tu viens de dire du moins je l'aimais. Enfin, tu. Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, je veux dire, à cette époque, ce n'était pas un manque d'amour qui m'a poussée à prendre cette décision. C'est surtout le fait que ça restait très virtuel et que ça partait. Ça tirait un peu trop dans la durée. Je n'avais pas de réponse quant à quand je le reverrais, quant à ce qu'on deviendrait tous les deux. Et je commençais à perdre espoir, à perdre la force de me dire où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on arrivera à accomplir ensemble? Mais au fond, c'était... Je voulais rester, parce que je tenais à lui. Mais mon corps, du moins, en avait été fatigué. Voilà.
Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le cœur qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre? Murmure, soupir, inaudible, délicate, morsure, volupté, indécible, avant de se loger dans le duvet des aisselles. Faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation, disparaît sous la paume, sueur, traction, le sang qui bat,
sur mes tempes. Cette lubie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules. La bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Est-ce que t'as le cœur bien accroché, débauché de sens, intention cachée, bouffée de chaleur, force centrifuge, déguise la sueur en purge. Est-ce que deux corps qui s'encastrent sont pour autant soudés l'un à l'autre? Est-ce que la mécanique du cœur s'enclenche comme un réflexe épidermique dès que l'on se penche pour ce magnétique bouton de chair pour lequel je suis la cheville ouvrière?
Il n'y a pas d'amour que des preuves d'amour. Le corps est une preuve d'amour.
Bleu de nuit. 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 Bleu de nuit.
Vous écoutez l'Atelier des médias, cette semaine Amour connecté avec Issatou, une émission signée Constance Léon.
RFI.
Qu'est-ce qui s'est passé après cette pause?
Après cette pause, qui a été très courte d'ailleurs, ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il n'a jamais vraiment lâché prise. Je lui reproche beaucoup de choses, mais pas de me laisser tomber en tout cas. Parce que même quand je ne voulais plus lui parler, il a su se faire tout petit, mais il s'est jamais effacé complètement du décor. Il pouvait m'écrire une fois tous les deux jours et il s'en foutait que je réponde pas, il allait réécrire. Et petit à petit, on a passé quelques mois quand même sans véritable communication. À certains moments, le pic reprenait et on se parlait comme si rien ne s'était jamais passé. On était fous amoureux. Mais à chaque fois, c'était en mode... ça sert à rien. Ça sert à rien de se parler avec autant d'engouement parce qu'on ne sait pas où on va. Mais après, on a repris véritablement la relation. Et là, c'est lui qui s'est senti fatigué, qui m'a demandé un peu d'air.
Pour les mêmes raisons que toi? Parce que le virtuel lui pesait?
Effectivement, parce que pendant qu'on a été séparés, il s'est senti tellement... Il ne me l'a pas dit sur le coup, mais bien après, il s'est senti profondément blessé que je ne veuille pas trouver la force de tenir avec lui. Et c'était vraiment un amour très insouciant au début, on va dire ça comme ça. Et ça l'a profondément blessé, en fait. Qu'ils sentent que moi je lâche alors qu'on s'était promis de faire ce chemin ensemble. Et donc après qu'on se soit remis ensemble malgré les moments d'échange de bonheur entre guillemets virtuel, il y avait toujours cette blessure qui lui pesait un peu. Et à un moment il avait peur de se rouvrir totalement en se disant est-ce qu'elle va pas me lâcher à nouveau, est-ce que... Mais là sur le coup il me l'a pas dit, là sur le coup il m'a juste dit qu'il a besoin de prendre un peu cette distance sans vraiment expliquer pourquoi. Et c'est au bout du troisième ou quatrième break, pause du moins, qu'il s'est ouvert et qu'il m'a totalement dit en fait ce qu'il avait pensé depuis la première rupture qu'on a eue.
Est-ce que vous vous êtes revus
physiquement après votre rencontre ?
Oui, on a eu la chance de se revoir physiquement cet été, du moins l'été dernier. Et c'était magique, on va dire ça comme ça. C'était très étonnant parce que c'est comme si, en fait, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était le mois d'avant. Déjà que je lui ai fait une surprise en débarquant à l'aéroport, il ne m'y attendait pas du tout. Il ne savait pas que j'étais au pays, en Côte d'Ivoire. Et il est venu pour les vacances. Du coup, il m'a dit quand il venait, mais à cette période-là, on était en froid. Voilà. Je crois que là, c'est lui qui avait besoin, qui m'a dit qu'il prenait ses distances parce qu'il avait besoin de temps et tout. Et donc, il savait que moi, j'allais arriver un peu plus tard et probablement qu'on allait se voir et discuter. Et je suis arrivée plus tôt. Il ne savait pas. Et je me suis arrangée avec son meilleur ami. On lui a fait une surprise. Donc, son grand frère, son meilleur ami, l'épouse de son grand frère et leur fille, on allait chercher à l'aéroport. Et tout le monde est descendu de la voiture quand il est arrivé pour le saluer, prendre ses bagages. Moi, je suis restée dedans. Et du coup, au moment où il ouvre la portière pour rentrer, bam, il tombe sur moi. Il est resté glacé. Il a rien dit. Il était... En fait, je sentais dans son regard qu'il avait envie de me sauter dessus. Mais il y avait tellement de monde autour de nous. Il est rentré dans la voiture, il était genre, il a dû prendre 5 à 10 minutes avant de dire bonsoir, en fait. Il respirait super fort, et il était like, et ça me faisait rire, mais je pouvais pas éclater de rire. Et du coup, la femme de son grand frère, elle lui fait, ah, on espère que t'aimes ta surprise, et tout ça. Parce qu'en fait, il avait vraiment mis en plan de pas dire quand il arrive et tout, pour nous surprendre, nous, en fait. Donc, mais ça s'est super bien passé ce soir-là. On est allé chez son grand frère, chez qui il reste généralement quand il vient au pays. Et après, on est partis tous les deux, on a passé la nuit ensemble, le lendemain aussi. Et puis, malheureusement, en fin de semaine, bon, pas malheureusement, mais en fin de semaine, il a dû aller dans une autre ville pour voir ses parents. Donc, c'était assez triste parce qu'on a fait une semaine. Donc, il était là pour 3 semaines. Et il a passé une semaine auprès de ses parents dans une autre ville. Et puis, il est revenu après. Et je crois que la semaine où il revenait, on s'est fait une Love Bird Week. Donc, pendant toute la semaine, on a établi un plan, en fait, un canevas de choses à faire. Et c'était genre, lundi, on va faire X, Y, Z, on mange à tel endroit avec telle personne. Et puis, le soir, on fait telle chose. Donc, on a fait ça du lundi au samedi, je pense. Voilà, donc du lundi au samedi, puis on s'est vu le lundi, et le mardi, il rentrait, il repartait.
Là où il étudie.
Bon, maintenant, il travaille. Donc, il repartait parce que ses congés voilà, se terminaient en fin de semaine.
Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu te dis par rapport à votre relation et à l'impératif de revenir au virtuel et au numérique ?
J'avoue qu'à ce moment précis-là, on a refusé d'y penser. On voyait les choses venir, mais on s'était fait la promesse de profiter au maximum du temps qu'on avait à passer ensemble. On se voyait à partir de 7h du matin, on ne se lâchait pas avant 21h, 22h. Donc, à la limite, si on se lâchait, c'est que vraiment on avait un impératif ou des choses qu'on ne pouvait pas faire ensemble. Peut-être que moi, j'avais un truc à faire au boulot rapidement ou que lui, il avait un rendez-vous professionnel ou des choses comme ça. Mais le reste du temps, pour aller voir nos amis ou même certains membres de nos familles, on y allait tous les deux. On a vraiment essayé au maximum de ne pas se lâcher la grappe. C'était... ça me donne des frissons. C'était vraiment, vraiment, vraiment super. Et on a décidé volontairement de ne pas penser à ce que ça redeviendrait. Aussi, on savait tous deux qu'après mon année ici au Sénégal, j'allais le retrouver là où il est. Donc, à la rentrée prochaine. Et du coup, on a dit qu'on va tenir ce pari, de tenir un an de plus à travers le numérique. Et, mais je dois t'avouer que s'il n'y avait pas cette perspective-là, aujourd'hui, ce serait très, très difficile de tenir. Parce qu'il y a des choses qui te prennent à la gorge. Souvent, tu as juste envie de dire « qu'est-ce que je fais là ?» Et puis tu te dis « cool down, plus qu'un an, plus que quelques mois, c'est fini ».
Tu penses à quoi, par exemple, à aux choses dont tu parles, où tu dis, voilà, ça, c'est des trucs, s'il n'y avait pas cette perspective derrière, franchement, je ne tiendrais pas le coup. Tu penses à quoi ?
Je pense au fait, je pense à la vie, si on va dire ça comme ça, parce que généralement, il y a des événements qui nous prennent de court en semaine, vu que tous les deux maintenant, moi je suis en stage, lui il a un emploi. C'est souvent très difficile, le matin on se dit à peine bonjour, à midi, si on trouve une seconde, on peut s'envoyer une photo de nos repas. Et le soir, c'est soit il doit aller au sport, soit je dois faire ceci, ou je rentre tard du boulot, il rentre tard du boulot, ou il est en déplacement dans une autre ville. Donc la communication n'est pas la plus fluide qui soit. Généralement, le soir, on essaye quand même de trouver une heure de temps au moins pour se faire un vidéo call. On insiste vraiment, on essaye vraiment de toujours le matin se dire bonjour et le soir d'avoir au moins une heure de vidéo call pour maintenir le cordon. Mais à certains moments, il y a juste un manque en fait. Et tu es fatigué de répéter qu'il te manque, tu es fatigué de te plaindre, tu es fatigué de supporter en fait. Donc juste toi, ça t'overwhelme, tu es juste fatigué, tu es épuisé de la relation en fait, parce que ça demande beaucoup de force. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que tu n'as pas vraiment envie de dire, tu as juste besoin que quelqu'un sente que tu es fatigué, que quelqu'un sente que tu as une journée difficile, que quelqu'un soit là physiquement pour toi, que quelqu'un te masse les pieds, que quelqu'un te serve un verre d'eau, ou même de faire la cuisine pour quelqu'un d'autre que toi. Donc il y a autant de choses qui te fatiguent psychologiquement et physiquement, et tu te dis, ça ira. Plus que quelques mois et ça ira. Mais si ça n'avait pas été le cas et qu'on ne savait pas où on allait et qu'on continuait la relation à tâtons, c'est clair que ça aurait été très difficile maintenant.
Et à ce moment-là, est-ce que tu sens une forme de décalage entre votre relation amoureuse virtuelle et celle que vous pouvez vivre occasionnellement dans le monde physique ?
Oui, parce que ça, il y a quand même eu 2 ans entre les 2 fois on s'est vus. Notre relation a plutôt mûri. L'approche qu'on avait de la relation en 2015 et celle qu'on avait en 2017 en se revoyant sont, je ne vais pas dire diamétralement opposées, mais sont quand même très évoluées et très distantes l'une de l'autre. On aime souvent dire qu'on a mûri. Mais oui, effectivement, ce n'est pas du tout la même approche qu'on avait l'un envers l'autre. Ça me renvoie à une lettre qu'on s'est envoyée, je pense, le 14 février ou plus tôt. La première chose qu'on a remarquée entre nos relations en fin 2015 et maintenant, c'est la maturité de cette dernière. Voilà. Bonne Saint-Valentin à nos chéris. Le chemin parcouru, déjà le ton est bien plus différent, on est dans quelque chose de bien plus lourd. Bonne Saint-Valentin à nous chéris. Le chemin parcouru jusque-là semble déjà un tout petit peu significatif. Kenenny, ce n'est que le début d'une longue et belle aventure. Et ce qui fera différence, c'est notre résilience, notre endurance dans le temps. Tu me manques tellement et j'espère que c'est la dernière fois que je célèbre ce jour sans toi. Love you. Donc la première chose qu'on remarque en fait sur l'évolution de nos relations, c'est la profondeur de celle-ci et c'est surtout la maturité qui s'est installée. On est vraiment en presque 3 ans passé d'une relation passionnelle, fusionnelle, où vraiment on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre, à une relation où on met des choses en perspective avec des projets et où on s'attache plus à des choses, à des valeurs plus fondamentales en fait. Là, on ne regarde plus seulement à ce que l'autre dit, mais on regarde à ce que l'autre fait, à quelles sont les valeurs et les principes de l'autre. On se met à se poser de véritables questions quant à si avec l'autre, on pourrait arriver à fonder quelque chose ou pas. La seule chose qui, je pense, n'a pas changé, c'est le fait que déjà, je crois, après 3 mois de relation, on parlait d'avoir des jumelles et un garçon. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste nos enfants virtuels. Je veux dire, à la limite, quand on termine un call, c'est genre bonne nuit, les enfants sont déjà au lit, machin et tout, qui a fermé la porte, qui a lâché le chien. Des trucs aussi vraiment bizarres et tout. Mais en 3 ans, c'est la chose qui n'a pas changé. Après, je veux dire, aujourd'hui, je pense que lorsqu'on se dit « je t'aime », ça pèse 100 fois plus que lorsqu'on se le disait à l'époque, en fait.
Il y a ton téléphone qui vient de s'éclairer. Est-ce que Willy nous écoute ?
Funny enough, c'est lui qui appelle. Donc je vais arrêter. Donc je vais décrocher pour qu'on voie ce que ça donne. Hello ! Ça va ? Donc, je vais tourner pour qu'il voie. Donc je suis avec Constance. On enregistre les amours connectés.
No way.
It's no way. Mais si. Ramène ta tête au moins pour dire bonsoir. Donc, tu veux participer, tu veux dire un truc. Comment ça, non?
Mon réseau dérange.
Il dit que son réseau dérange. Il veut juste se défiler, en fait. D'accord, je te rappelle plus tard. Bisous.
Donc avant que ton homme nous appelle, tu parlais de, voilà, de, en fait, de cette routine qui s'installait sur les réseaux, mais aussi de ce manque physique en fait que les réseaux sociaux ne pouvaient pas combler. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes conscient de ça, vous en parlez et vous vous dites, en fait c'est bien le virtuel mais c'est pas suffisant?
Oui, parce qu'il arrive souvent un moment où la coupe déborde, comme on dit, et tu le sens chez l'autre. Et notre technique à ce moment-là, c'est juste de rassurer l'autre, de lui dire que ça va aller. Ou du moins, il y a des actes ou des manquements dans nos actes que l'autre ressent et qui blessent l'autre aussi. Donc, c'est vraiment de pouvoir demander pardon. Je pense que ça, c'est la chose qu'on a appris à mieux faire, à écouter l'autre et à demander pardon. Parce que vu que les choses ne sont généralement pas totalement dites, on en a conscience. On s'excuse même pour des choses qu'on ne sait pas qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Mais c'est vraiment que l'autre se sente à l'aise. Lui, c'est très bien le faire. C'est très bien le faire d'ailleurs. Parce que j'ai beaucoup de sautes d'humeur souvent et tout, parce que je suis très overwhelmed par les choses. Je suis sur plusieurs choses en même temps. Donc vraiment, quand je suis à la maison ou que je suis avec lui, en ligne avec lui, c'est vraiment que j'ai juste envie de me reposer. Je n'ai pas envie de... Bon, à moins que ce soit des situations forcément qui arrivent, qui nous stressent et tout, naninanana. Mais voilà, ça arrive souvent que je sois contrariée par X, Y ou Z choses. Ou que, voilà, à cause de cette routine-là, je ne me sens pas à l'aise ou que j'ai même plus envie de lui parler. Et voilà, il s'attelle à me rassurer que, voilà, ce sera bientôt fini, qu'il est là et que, etc. Pour lui, de son côté, ce dont il a le plus peur, je pense, c'est que vu que je suis très seule ici et que la grande majorité de mes fréquentations sont masculines, donc pour le rassurer, même s'il ne le dit pas, je vois souvent dans son questionnement qu'il veut comprendre, il veut savoir ce qui se passe avec chaque personne. Donc ce que moi je fais, c'est vraiment de lui étayer pour qu'il ait un maximum de confiance, de lui étayer tous les détails sur mes relations, même s'il ne demande pas, de juste lui dire pour qu'il soit rassuré. Voilà, vu qu'on est quasiment tout le temps en ligne, si j'ai quelqu'un qui m'appelle, je vais lui dire. Si j'ai quelqu'un qui rentre chez moi, qui arrive chez moi, je vais lui dire. Si quelqu'un me fait des avances, je vais lui dire. Et je vais même lui dire comment j'ai fait pour repousser les avances. Et puis, on a notre petit code qu'on appelle des piqûres. Donc, quand il dit qu'il y a une livraison de piqûres, c'est qu'il trouve qu'un mec, il roule trop autour de moi ou qu'il me dit des trucs chelous. Donc, il fait, je sens qu'il y a des piqûres qui arrivent. Yeah, so... Voilà, basically, c'est vraiment qu'on essaye de se rassurer, mais on est tous les deux conscients que vraiment, à un moment, la technologie, ça suffit plus, quoi.
C'était Amour Connecté 3, Issatou, une émission de Constance Léon, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Merci à Issatou, c'est un pseudonyme, ainsi qu'à son chéri Wally. En coulisses de l'atelier, Léo Caravagna, Mathilde Saliou et Camille Deloche. Salut à toutes et à tous.